Maurice Renard, le Hollandais volant. Un fait certain, c'est que jamais, au grand jamais, sur aucun des navires où vous avez pris passage, les gens ne s'étaient livrés à tant de causeries, commentaires et discussions concernant les légendes de la mer. À table, vous aviez beau faire, la conversation revenait toujours sur ces damnées histoires qui se terminent fatalement assez mal pour les marins ou même pour les passagers qui ont été soi-disant témoins des faits. J'avais pour voisine une grande et grosse dame de nationalité suisse, craintive comme pas une. Je l'entends encore murmurer avec frayeur: « Mon Dieu, encore ces choses! » lorsque quelqu'un revenait sur le chapitre en question. Le plus singulier, c'est qu'elle-même, cette grande et grosse dame, se mit tout à coup à parler du Hollandais volant. Un soir que chacun avait très gaiement donné son avis à propos du carnaval de Nice, que tout le monde connaissait bien entendu. Un silence s'établit après cela, et cette excellente grande et grosse dame si craintive avait pris la parole d'une façon des plus bizarres, à croire qu'il lui semblait impérieusement nécessaire de rompre ce silence. Et néanmoins, tout en parlant, elle écarquillait les yeux, tout rond et effaré, comme s'il était brillé contre son gré, qu'elle était non seulement stupéfaite, mais épouvantée de s'entendre dire tout ce qu'elle disait sur le vaisseau fantôme. Elle en demeura hébétée tout le reste de la soirée et toute la journée du lendemain, sans d'ailleurs confesser à chacun d'entre nous la raison de son hébétement. Mais je lisais dans sa pensée comme dans un livre écrit pour les enfants, ayant moi-même succombé plusieurs fois à l'irrésistible tentation de mêler de fantastiques puissants à l'existence du bord, je savais bien qu'une obscure puissance nous obligeait à évoquer ainsi tour à tour les sinistres figures légendaires de l'océan. Oh, c'était mauvais signe, très mauvais signe. Nous en avions conscience, allez, mais c'était aussi diablement instructif. Je pense que si j'avais retenu seulement la moitié de tout ce qui s'est raconté au cours de cette traversée, j'aurais pu faire éditer un bouquin tout à fait intéressant sur les épouvantails que le commerce de la mer engendre chez les hommes et les multiples formes que chaque légende revêt selon les pays. Et ce qui peut-être me frappa le plus, ce fut du Hollandais volant, l'admirable, saisissante variation que représente le vaisseau fantôme comme étant en effet un vaisseau volant, non pas naviguant sur les flots nocturnes, gigantesque trois-mâts ne cessant de grandir et de se développer en tous sens au cours des siècles, comme une créature terriblement vivante, mais je dis bien un vaisseau fondant les nues, passant dans le ciel des catastrophes, tous ces voiles gonflées d'ouragans et ces cordages sifflant jusqu'à hurler. Rien, je l'avoue, ne semblait plus propre à faire se hérisser les cheveux sur le crâne de nos grands-pères. Rien comme la vision du bâtiment maudit, traînant 1000 lambeaux allumés d'étincelles et montrant aux matelots en perdition, les dessous effrayants de sa carène monstrueuse, avec sa grille marquée d'un trait phosphorescent. Comme cela, je comprenais mieux, je réalisais dans toute sa force l'épouvantement que le vaisseau fantôme avait entretenu, mais chez les gens de mer, et non peut-être, il est glacé encore parfois, lorsque, tout près des côtes de Bretagne, les flots commencèrent à se soulever, lorsque les officiers nous avertirent gentiment que nous allions essuyer un assez gros temps, je ne pus m'empêcher de me rappeler toutes les conversations et d'y voir plus que jamais un funeste présage. Impossible d'échapper à la hantise. Mais la nuit était venue, sur une mer démontée. Je ne me penchais pas pour y chercher du regard l'ombre tordue des êtres mythologiques ou bien un pâle surgissement de spectres ou bien l'entrevision d'une cité engloutie et pourtant illuminée. Et je levai les yeux, au contraire, vers les nuages. Et moitié par jeu, moitié sous l'empire d'une appréhension grandissante, c'était au vaisseau fantôme, hollandais volant, que je pensais. Je ne le vis pas avant notre naufrage, ainsi qu'il eût été classique qu'il m'apparût. Je le vis après, et ce ne fut ni un rêve, ni même, mon Dieu non, ni même une hallucination. Ce fut, mais si je vous le révèle, la suite n'aura plus aucun intérêt pour vous. Notre paquebot s'ouvrit sur des écueils où la tempête l'avait poussé. Oh, je vous fais grâce du récit de mes émotions. Ils ne furent pas pourtant insignifiantes, je vous assure. Ayant perdu connaissance, lorsque notre canot de sauvetage trop chargé se retourna, je revins à moi très froidement pour me sentir étendu sur le dos. Je n'avais qu'une sensation presque inexistante du monde extérieur. Cependant, la certitude s'imposait à moi. Je venais d'être jeté par les lames sur quelque rocher ou quelque banc de sable. Je ne pouvais remuer le petit doigt. Je me sentais anéanti. Un vent violent passait sur la figure. Des éclairs figuraient à tout instant, créant des alternatives de ténèbres et de lumière. Et tout à coup, je le vis. Énorme et sombre, il planait au-dessus de moi. Il semblait s'être arrêté un instant dans son éternelle et infernale traversée, afin que son équipage d'horreur pût contempler notre désastre et s'en réjouir lugubrement. Il tanguait et roulait dans l'espace aérien, comme sur l'eau furieuse d'un navire ordinaire. Et j'apercevais, comme prévu, le dessous effrayant de sa coque avec sa quille soulignée d'une lueur spectrale. L'effroi du surnaturel me procura une vigueur soudaine. Je vis un effort surhumain pour me soustraire à la menace indicible qui surplombait mon impuissance comme une malédiction du ciel et de l'enfer. Je me dressais sur mon séant avec une faveur étouffée que j'entendis. J'entendis, non moins aussitôt, une voix de femme apaisante qui caressa mon oreille tandis que les nains se raccrochaient avec douceur. Le Hollandais volant, fis-je en gémissant, mes yeux toujours levés vers l'abomination. Et quelqu'un se mit à rire. Très peu, mais à rire cependant. Et le vaisseau fantôme disparut alors. Ce n'était qu'un vieux trois-mâts, pas plus grand qu'un jouet. Un ancien ex-voto d'église, suspendu dans le hall d'une villa très élégante, juste au-dessus du divan où l'on avait porté après mon sauvetage. Des femmes m'entouraient. L'une d'elles m'éveillait vigoureusement à l'aide d'une serviette qui masquait et démasquait la lumière atténuée d'une lampe et dont le souffle faisait bouger le petit trois-mâts au bout de son fil. On venait de badigeonner à la teinture d'une blessure légère que j'avais au front. Et je pourrais vous dire qu'une de ces femmes était charmante et qu'elle épiait avec un délicieux émoi mon retour à la vie. Par malheur, il n'en fut rien. Et l'histoire de ma rencontre avec le Hollandais volant se termina prosaïquement, à la minute même où, par bonté, quelqu'un décrocha le sujet dérisoire de ma grande terreur.